française.
Latina.
La franco-latina.
Le Brésil intéresse, le Brésil inquiète. Ces derniers temps, l'une des principales puissances mondiales semble vaciller pour des raisons où se mélange le ralentissement de l'économie mondiale avec une corruption qui touche tous les secteurs politiques, avec les changements de cap du PT et avec les erreurs du gouvernement de Dilma Rousseff. Au lendemain de l'une des grandes manifestations qui ont marqué le mois de mars, nous avons voulu regarder de plus près pour mieux comprendre l'instabilité qui semble s'installer dans le pays. Depuis le Brésil, Angelina Peralva et Roberto das Chagas, deux anciens exilés, ont bien voulu nous aider à y voir plus clair. Roberto, laquelle de toutes ces questions est finalement à la base de la crise actuelle?
Je pense qu'il y a de tout ça par rapport aux dernières élections. Il y a le fait que les perdants, ceux qui ici, et d'ailleurs même en France, on présente comme le candidat de droite, hein, et qui pour la première fois a pris vraiment cette couleur-là, alors que c'était le candidat du Parti social-démocrate brésilien, et qui n'a pas accepté sa défaite. Depuis, il joue l'harcèlement permanent et l'instabilité comme forme politique. Ça, c'est une chose. D'autre part, le gouvernement, il a fait toutes les erreurs qu'il aurait pu faire. Là, il a fait fort, quoi. Et donc, depuis la réélection de Dilma, c'est la paralysie du gouvernement. Elle a fait comme Hollande en France. Juste après sa réélection, elle a commencé à faire la politique économique de la droite, donc des ajustements économiques qui revenaient en arrière par rapport aux avancées sociales précédentes et en même temps avec une conjoncture économique beaucoup plus fragile, avec une croissance d'abord à zéro et depuis un an et quelques carrément une récession. Ça fait 7 trimestres de récession. Le PIB du Brésil en 2 ans a reculé de 10%. Alors que dans son premier mandat, le ministre de l'économie de Dilma se jubilait de dire « on est passé à la 6e économie du monde, bientôt on va dépasser la France, on sera la 5e ». Je me demande si le Brésil est encore la 8e actuellement. Donc voilà. En même temps, le niveau de corruption qui était déjà énorme quand le PT, qui a été fondé pour être le parti qui allait être différent, qui allait mettre fin à la corruption et qui n'a fait autre chose qu'en profiter depuis même le premier mandat de Lula, ça a été de dire « ça a toujours été comme ça, donc maintenant c'est notre tour ». La différence, c'est que là, la justice a commencé vraiment à s'en mêler. Elle a mis des gros entrepreneurs en tôle. Pour faire un parallèle, Martin Bouygues en tôle. Et déjà, maintenant, condamné à 19 ans de prison. Donc, ce n'est pas un truc anodin. Ce n'est pas une garde à vue comme on en voit de temps en temps en France. Et là, des manifs de l'opposition, des manifs du gouvernement. Et le plus récent, c'est une demi-page de la Confédération des camionneurs qui dit « ça y est, les limites sont dépassées, donc soit elles renoncent immédiatement, soit on y va ».
Autant il est très critique des renoncements du PT et des failles du gouvernement de Dilma Rousseff, autant Angelina Peralva ne fait pas partie de celles et ceux qui, même à gauche, réclament la démission de Dilma. Car il faut dire que, pour ajouter à la confusion, la demande d'impeachment, c'est-à-dire la démission de Dilma, ne vient pas que de la droite, mais aussi de la gauche. N'est-ce pas, Angelina?
Oui, bien sûr. Dans les rues, que ce soit dans les manifs de droite, entre guillemets, hein, ou dans les manifs de gauche, c'est-à-dire dans les manifs contre Dilma ou dans les manifs pour Dilma, tu as évidemment, comme dans toutes les manifs d'ailleurs, toutes sortes de gens. Et dans les manifs dites de droite, tu as des gens qui te disent « j'ai toujours voté pour Lula, mais ça suffit ». Et d'un autre côté, il y a des gens comme moi qui n'ai pas voté pour Dilma. Aux dernières élections, je ne suis pas allée voter. Mais qui, effectivement, se pose la question de la préservation du cadre institutionnel démocratique. Pourquoi ? C'est un choix, quand même. Parce que, à mon avis, moi j'aurais dit les choses de façon un petit peu différente de ce qu'a dit Roberto. C'est-à-dire, je pense qu'on arrive à une crise économique, certes, elle est là. Et c'est important quand même, ça a un impact sur des prises de position aujourd'hui dans le pays, mais il y a fondamentalement une crise institutionnelle. C'est-à-dire que tu as une enquête en justice qui a mis en évidence non pas seulement la corruption au sein du Parti des travailleurs, non pas exclusivement de la corruption personnelle, mais un cadre institutionnel qui est corrupteur. C'est quoi ce cadre institutionnel de corrupteur ? C'est, disons, un système politique entièrement fragmenté, où il n'y a pas des dispositifs de barrage pour constituer des majorités représentatives au Parlement, donc une multiplicité, une fragmentation des partis, qui fait que, pour gouverner depuis le début, le PT a été obligé d'acheter sa majorité. Ça a toujours été comme ça, sauf que l'achat des majorités, ça n'a pas été différent au gouvernement Cardoso, puisque eux aussi, ils étaient minoritaires. Mais l'achat était fait sur la base de la distribution de charges ministérielles, ce type de choses.
Et en plus, c'était beaucoup plus limité.
Beaucoup plus limité. Donc, ce dispositif-là, d'achat de voix, il est devenu beaucoup plus important pendant le gouvernement du PT, parce que les bases de constitution de la majorité alliée, c'est le terme employé par le PT, étaient beaucoup plus fragmentées que celles du gouvernement Cardoso. Dans le gouvernement Cardoso, tu avais grosso modo deux partis, c'est-à-dire ils gouvernaient avec l'ancienne droite dictatoriale, et donc c'était beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de corruption à ce moment-là, mais que les conditions de constitution d'une majorité étaient beaucoup moins complexes que celles qu'a dû affronter le PT. Donc, il y a des problèmes de corruption personnelle, c'est certain, mais derrière ces problèmes de corruption personnelle, tu as une crise institutionnelle. Si on ne règle pas cette crise-là, ça ne règle aucun problème. La corruption, elle devient un problème moral et c'est comme ça qu'elle est perçue, grosso modo, par la population qui est dans les rues, y compris par ceux qui étaient des électeurs du PT ou des sympathisants ou des fondateurs, des membres fondateurs, et qui disent le PT a perdu son âme et qui sont aujourd'hui dans la rue pour demander la destitution de Dilma. Bref, ça apparaît comme une crise morale. Il y a une crise morale, mais derrière cette crise morale, il y a une crise institutionnelle. Sans que tu règles, sans une réforme politique qui soit capable de réduire le nombre de partis représentés au Parlement, on ne va rien changer. On ne va strictement rien changer. Et la preuve est bien que tous les partis, et pas seulement les gens du PT, mais tous les partis de la base, de ce que le PT appelle sa base alliée, sont mis en examen ou condamnés, plus les entrepreneurs, c'est tout le BTP qui est concerné, toutes les entreprises du BTP qui sont concernées, des présidents de grosses entreprises qui ont été condamnés à des peines extrêmement lourdes, dont certains s'en sont sortis parce qu'il y a une délation premiade, comme les repentis de la mafia. Ça, c'est un dispositif légal qui a été sanctionné par Dilma Rousseff, celle qui a signé la loi qui autorise ce dispositif-là, qui a permis à l'enquête en justice sur la Petrobras d'avancer très rapidement en une période de moins de 2 ans. Et c'est ça ce qui éclate aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a un an, ce n'était pas aussi évident. Donc il y a eu un phénomène de harcèlement, de non-reconnaissance de l'élection de Dilma, il y a eu tout ça. Enfin, on voulait qu'elle soit destituée pour des raisons qui étaient des raisons absolument marginales. Et ce qui est important, c'est que contre elle, jusqu'ici, il n'y a strictement rien. Il n'y a aucune accusation sérieuse qui pèse contre elle. Et évidemment, enfin moi, mon point de vue, c'est que sa destitution, elle ne vise que à arrêter l'enquête. Évidemment, de tous les côtés. C'est-à-dire du côté des entrepreneurs, du côté des partis politiques, de l'ensemble des partis politiques. Parce que si l'enquête se poursuit, c'est évident qu'ils vont être tous concernés. Tout le monde est là. Tout le monde est représenté dans les mises en examen dans cette enquête. Pourquoi j'ai pris position contre la décision de Dilma? C'est tout bêtement parce que je pense qu'il faut que l'enquête se poursuive et que sa destitution va ajouter de la confusion à la confusion générale qui règne aujourd'hui. Parce que ça ne va rien régler, au contraire, il y a un risque de retour en arrière. La difficulté étant que la crise, elle est très importante, c'est-à-dire le pays est arrêté. Et quand les gens, quand les industriels, ils commencent à prendre position et à dire « bon, ben, ça ne va pas », c'est tout simplement parce que l'économie est arrêtée et parce que ça commence à peser sérieusement dans la vie des gens. Donc on est dans une situation où je ne vois pas de risque de coup d'État immédiat du genre coup d'État militaire comme on l'a connu par le passé. Mais c'est vrai que les gens commencent à se battre dans la rue, qu'il y a une montée des tensions qui est très compliquée et très difficile. Et que la nomination de Lula comme ministre pour le protéger de l'enquête dont il est l'objet, ce n'était pas quand même la meilleure trouvaille qu'on ait pu choisir.
Française. Latina.
La Franco-Latina.